Bien, ben bonsoir à toutes et à tous. Donc pour notre deuxième séance que j'ai intitulée les manifestations du changement et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors deux axes d'études, deux grands changements, deux grandes manifestations du changement. D'une part, d'un point de vue du droit pénal de fond, ce qu'on appelle le droit substantiel. Et je verrai ensuite les changements formels qui concernent ce qui a trait au procès pénal. Alors sur les changements et sur les manifestations du changement du droit pénal général, il y en a deux grands. Le premier qui concerne les peines, que je verrai plutôt la troisième séance où je m'attarderai plus particulièrement aux peines et à tout ce qui concerne la prison et tout ça. Donc pour le coup je vais l'évincer de cette séance-là et le deuxième grand changement porte sur ce qu'on appelle le principe de la légalité, c'est-à-dire sur la loi même qui est la base du droit pénal général et de tout le système pénal. Alors je vous propose de voir dans un premier temps l'importance du principe de légalité, c'est-à-dire de l'importance de la loi en droit pénal, et ensuite je verrai les atteintes à ce principe de légalité. Alors l'importance de la loi en droit pénal est assez ancienne. Hein. Déjà sous l'Ancien Régime, il y avait déjà une approche du principe de légalité. C'est surtout les philosophes du XVIIIe siècle qui ont développé ce principe. Montesquieu est surtout un grand penseur du droit pénal, qui est Beccaria, Cesare Beccaria, qui est italien, et qui est, au XVIIIe siècle, le précurseur du droit pénal moderne, puisque c'est le premier, à vraiment parler de la légalité, c'est-à-dire de dire il faut une loi pour déterminer le droit pénal. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que la loi, c'est l'expression de la volonté générale, c'est la volonté du peuple, par le biais des représentants, évidemment. Et donc, bah, par conséquent, ça ne peut être que par la loi que le droit pénal va s'exprimer. Et effectivement, ce principe, c'est le principe fondamental et le principe clé dans notre système juridique et notre système pénal. Alors, ce principe de légalité a une double signification. La première qui est ce qu'on appelle la légalité matérielle, c'est-à-dire que le texte de la loi doit être suffisamment clair. Pourquoi il doit être suffisamment clair, ce texte pénal ? Bah, tout simplement parce que il faut, normalement, c'est l'esprit, évidemment, que la loi puisse avertir, évidemment, avant de sanctionner. Il vaut mieux être préventif que répressif, évidemment. Et par conséquent, pour pouvoir prévenir, bah, il faut que la loi soit d'abord précise, accessible et prévisible, dans la mesure où, évidemment, il faut que les gens puissent connaître à l'avance quel comportement va être réprimé ou pas. Alors évidemment, ça, on est d'accord que c'est l'idée générale. Hein, je défie quiconque, même moi. Je ne sais absolument pas toutes les lois qui existent et toutes les dispositions pénales. Il y en a évidemment beaucoup. Mais évidemment, vous n'êtes pas censé savoir le fameux adage en droit. Nul n'est censé ignorer la loi et c'est une présomption. Hein, en tant que citoyen, vous êtes censé connaître la loi. Alors c'est ce que l'on appelle le principe de l'égalité matérielle. Et à cette légalité matérielle vient s'ajouter ce que l'on appelle la légalité formelle. Cette légalité formelle qui signifie que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, seul le législateur est compétent pour édicter une norme pénale, à savoir les crimes et les délits. D'accord, c'est marqué dans la Constitution, hein, l'article 34 de la Constitution, et dans le Code pénal, il y a aussi une disposition qui indique que les crimes et les délits sont rédigés par le législateur, et uniquement le législateur, dans la mesure où, comme je vous le disais tout à l'heure, bah, le législateur vous représente, nous représente, et il représente la société. Hein, donc c'est le seul à savoir ce qui est juste ou pas juste, quelle valeur sociale il veut ou pas protéger, c'est le seul à être compétent. Alors, ce principe de l'égalité, évidemment, a une valeur, a une haute valeur juridique en France. C'est le premier principe juridique. Il a une valeur constitutionnelle, évidemment, on comprend pourquoi. Il figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il figure évidemment dans le Code pénal, c'est logique. Il figure également dans de nombreux textes internationaux, dans les pactes civils et politiques, évidemment dans la CEDH, en son article 7, où effectivement il est très clairement indiqué qu'il ne peut pas y avoir de crimes et de délits qui ne soient pas prévus par la loi. Bon. Mais évidemment, ce beau principe connaît des limites, évidemment des atteintes, sinon ce serait pas marrant, et c'est ce que je vais voir maintenant, à savoir les atteintes au principe de la légalité. Et je distinguerai les vraies atteintes, les atteintes réelles, des atteintes que j'ai intitulées des atteintes apparentes. Alors les atteintes réelles au principe de la légalité, j'en ai dénombré deux grandes. Le premier qui est le phénomène de ce qu'on appelle de délégation. Le premier phénomène qui est celui de la délégation qui fait perdre un certain monopole à la loi. Dans la mesure où la délégation c'est tout simplement que l'exécutif, le pouvoir exécutif va prendre le relais du législatif, du pouvoir législatif. Alors, évidemment, pour les crimes et les délits, le pouvoir exécutif n'intervient que de manière subsidiaire, mais il intervient quand même, et je vais vous le démontrer par un exemple tout simple. Le code pénal incrimine le trafic de stupéfiants, d'accord, en disant le trafic de stupéfiants, réprimé par telle peine d'emprisonnement, d'accord. Mais le code pénal ne définit pas ce qu'est les stupéfiants, ce qui est ballot. Ce qui signifie que pour savoir ce qu'est un stupéfiant, il faut aller dans un autre code, qui est le code de la santé publique, qui lui, dans son article très précis 627 du code de la santé publique, lui va dire ce qu'est les stupéfiants. Et encore cet article, il va même plus loin parce qu'il renvoie à un arrêté ministériel qui va lister l'ensemble des produits susceptibles d'être des produits stupéfiants. Donc on voit qu'il y a quand même, là pour le coup, pour le trafic de stupéfiants, il faut utiliser trois textes, juste pour savoir ce qui va être réprimé ou pas. Et des exemples comme ça, bon, j'en ai pris qu'un, mais des exemples comme ça de délégation, donc ce qu'on appelle d'incrimination par renvoi, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, et de plus en plus, c'est la technique qui est de plus en plus utilisée par le législateur. Tout simplement, ça permet de gagner, alors pour le législateur de gagner du temps. Mais alors évidemment, on comprend bien que en renvoyant et en multipliant les codes et les sources du droit, évidemment, on en arrive à une complexification évidente du droit, et ce qui est vrai, c'est-à-dire que, pour être très honnête, le droit pénal devient de plus en plus compliqué de par ce système de renvoi. Et évidemment, le fameux principe que je vous disais tout à l'heure de clarté de la loi, évidemment, est de moins en moins respecté, parce que le fameux « nul n'est censé ignorer la loi », quand il faut aller chercher dans trois textes différents, là déjà, il faut avoir un peu de courage. Mais le phénomène de délégation que je vous parlais, s'il concerne moins les crimes et les délits, concerne beaucoup plus les contraventions, puisque la Constitution a prévu que, de droit, le pouvoir exécutif avait la compétence pour édicter les contraventions, c'est-à-dire tout ce qui est prévu par un règlement. Alors, évidemment, toutes les contraventions au code de la route et ainsi de suite, par exemple. Donc, c'est une compétence, évidemment, qui est de droit pour le pouvoir exécutif. Alors, simplement, il y a une limite, évidemment, qui est, je pense que vous avez, vous la sentez venir, c'est qu'évidemment, le pouvoir exécutif ne peut pas prendre de mesures de sanctions privatives de liberté. C'est pas possible, évidemment, il ne peut pas mettre, il ne peut pas y avoir un règlement avec une peine d'emprisonnement, c'est pas possible. D'accord ? Ce serait immédiatement censuré par le Conseil constitutionnel. La deuxième atteinte réelle au principe de l'égalité, c'est celui de l'imprécision des textes. De plus en plus, le législateur définit assez mal, soit il définit mal, soit carrément il omet de définir des notions. Alors évidemment, c'est évidemment compliqué, puisque une incrimination qui n'est pas définie, c'est une incrimination qui évidemment va pouvoir s'appliquer ou va s'appliquer très mal. Bon. Je vais prendre un exemple, je pense que vous en avez tous entendu parler, qui est celui de l'inceste. Je pense que vous en avez entendu parler dans l'actualité assez récente. Le code pénal envisage ce que l'on appelle le viol aggravé, et notamment le viol aggravé donc par la circonstance d'avoir été commis par un ascendant. Donc c'est ce que l'on appelle de l'inceste. D'accord ? Bon. Et c'est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Bon, en 2010, le législateur a voulu autonomiser ce crime en disant le crime d'inceste sur mineur sera un délit autonome et je vais faire une loi pour justement le rendre autonome. Bon, alors pourquoi pas ? Et du coup, il va éditer alors deux textes qui étaient formulés ainsi. Alors, je vous en dis que je vous le lis que le premier parce que le deuxième est assez similaire. Qui était « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur, blablabla, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. » Bon. Et le deuxième, c'était dans le même ordre, mais sur les atteintes sexuelles sur mineurs. Bon. Alors évidemment, c'est pas passé. Là, je pense que vous en avez entendu parler. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions dans deux décisions du Conseil constitutionnel. Il les a censurées. Alors pourquoi ? Évidemment, c'est plutôt ça qui est intéressant de savoir. Ben, si vous vous rappelez bien ce que je viens de vous lire, c'était les viols et agressions sexuelles lorsqu'ils sont commis au sein de la famille. Bon, manque de peau, ça ce n'est pas passé pour le Conseil constitutionnel parce que le Conseil constitutionnel ne sait pas ce que c'est qu'une famille. Et à vrai dire, personne ne sait vraiment ce qu'est une famille. Parce qu'une famille, c'est des gens qui peuvent être mariés, mais ça peut être des personnes qui vivent en concubinage, ça peut être des personnes qui vivent des partenaires de Pacs, ça peut être des familles recomposées. Bref, c'est très compliqué. Évidemment, il n'y a pas de définition claire et précise de ce qu'est une famille. Donc évidemment, quand on nous dit c'est commis au sein de la famille, ben oui, mais quelle famille on parle ? Bon, première chose. La deuxième chose, c'est que, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, ce texte-là, c'est un texte en surabondance par rapport au code pénal. Puisque si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, le code pénal incriminait déjà l'inceste. Ce que je vous disais tout à l'heure, alors ça ne s'appelait pas inceste dans le code, ça s'appelait viol aggravé. Ben oui, mais manque de peau, c'est quand même de l'inceste, pas un ascendant. Jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même de l'inceste. Bon, donc déjà, deuxième problème. Et puis aussi, troisième problème, si vous avez bien fait attention, au sein de la famille, sur la personne d'un mineur. Alors bon, pourquoi pas, hein, moi je veux bien concevoir l'incrimination d'inceste, pourquoi pas, mais jusqu'à preuve du contraire, l'inceste, si on prend une définition très large, enfin, communément admis, hein, c'est d'avoir des relations sexuelles entre personnes, d'une même parenté, d'une même lignée, voilà. Et ce qui ne signifie pas nécessairement avoir des relations avec un mineur. Si vous avez 18 ans mais que vous avez une relation forcée avec votre père, c'est quand même de l'inceste. Je suis désolé. Mais alors évidemment, pour le coup, ça ne rentrerait pas dans cette qualification-là puisque c'est commis sur un mineur, mais ça reste de l'inceste. Donc vous voyez bien qu'il y avait quand même un petit souci par rapport à ça, dans la mesure où, alors pourquoi sur un mineur on appellerait ça incestueux ? Et pour un majeur, ben non, ça serait viol aggravé. Alors que ça reste la même chose et la même, le même crime. Bon. Donc voilà un exemple de mauvaise d'imprécision de texte, tout simplement. C'est-à-dire qu'en soi, l'idée de vouloir incriminer l'inceste, en soi, pourquoi pas, il n'y a pas de... c'est pas une mauvaise idée, finalement. Oui, mais le problème, c'est que soit on incrimine l'inceste globalement, et on fait un chapitre dans le code en disant de l'inceste, et voilà, point. Soit on le fait pas, mais on le fait, soit on le fait bien, soit on le fait pas bien, mais il faut choisir. À côté de ces atteintes réelles, il y a des atteintes apparentes au principe de la légalité. Ces atteintes apparentes au principe de la légalité, c'est notamment l'œuvre du juge. Alors, évidemment, apparent, mais atteinte quand même au principe de la légalité, dans la mesure où l'idée de base de la légalité, c'est que ce soit prévu que par la loi. Et encore plus en droit pénal, si ce principe est vrai pour tout le droit, c'est encore plus vrai pour le droit pénal, et à tel point que a été posée l'interdiction de tout rôle créateur de droit pour le juge. Alors évidemment, il y a des exceptions, évidemment, et le juge a eu l'occasion de créer, de faire du droit lui-même. Alors il a tout d'abord permis de dégager certains grands principes du droit, notamment alors des idées fondamentales, des idées essentielles d'ordre général de droit. Je pense en particulier au principe de l'oralité des débats. Bon, le principe de la publicité du procès et, par exemple, le principe du contradictoire, c'est-à-dire de pouvoir se répondre et pouvoir échanger ses idées. Bon, ces principes sont des principes qui sont à la base issus du juge. D'accord ? Bon. Les deuxièmes atteintes, c'est parfois le juge va apporter certains correctifs à la loi, dans la mesure où évidemment, et on comprend tout à fait que le législateur ne peut pas prévoir tous les cas particuliers et toutes les spécificités de la vie courante, c'est pas envisageable. Le législateur, il n'est censé faire que des lois générales et impersonnelles. Mais du coup, ces lois générales et impersonnelles, il faut bien les adapter un tout petit peu quand même aux personnes. Alors c'est évidemment le principe de l'individualisation, mais c'est parfois, c'est le juge a été contraint de créer certains faits justificatifs. Alors je pense en particulier à ce qu'on appelle l'état de nécessité. C'est un fait justificatif qui permet de considérer qu'une infraction ne sera pas constituée lorsque l'on ne peut pas faire autrement que de créer soi-même une infraction. C'est par exemple le cas de... Alors, bon, par exemple, vous grillez un feu rouge pour éviter une poussette qui traverse, quand il ne faut pas, évidemment. Et pour l'éviter, vous passez au feu rouge. On est tous d'accord, enfin, jusqu'à présent, que passer au feu rouge, évidemment, c'est une contravention, donc c'est évidemment pas une bonne chose. Mais évidemment, vous comprenez bien que qu'est-ce qu'il vaut mieux protéger ? Est-ce qu'il vaut mieux rentrer dans le landau avec l'enfant qui est dans le landau, ou est-ce qu'il vaut mieux griller le feu rouge ? Personnellement, je préfère griller le feu rouge plutôt que de rentrer dans le landau, j'aurai moins de problèmes. Donc, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement que pour éviter une infraction que d'en créer une autre. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et par exemple, notamment, dans le droit du travail, le juge a considéré que vous pouviez, sans risquer d'être poursuivi pour vol, de subtiliser des documents pour justifier d'un exercice de droit de la défense lors d'un litige prud'homal. C'est-à-dire que vous pouvez subtiliser les documents si et seulement si ils seront réutilisés dans le cadre d'un litige prud'homal. D'accord ? Mais c'est vraiment très encadré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus voler tout comme ça. Bon. Alors, à côté de ces changements de droit pénal de fond, maintenant je vais envisager les changements de droit formel, c'est-à-dire qui touchent au procès en lui-même. Alors, deux grands changements. deux grandes mutations, on peut dire. Le premier qui est un renforcement des principes généraux de la procédure pénale, et ensuite je verrai le renforcement du modèle accusatoire. Le renforcement des principes généraux de la procédure pénale, tout d'abord, on peut distinguer en gros deux grands principes, deux grands mouvements de droit qui ont été renforcés. D'une part, les droits relatifs à la qualité de la justice, et d'autre part, les droits de la défense. Alors, pour les droits relatifs à la qualité de la justice, il y en a deux grands blocs, d'une part relatif au tribunal et ensuite relatif au déroulement du procès. Alors, les droits relatifs au tribunal, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'une part pouvoir avoir accès à un juge, ce qui est évidemment la base dans une société démocratique, mais c'est toujours pareil, ça vaut mieux en le disant, et quand c'est écrit quelque part, c'est mieux aussi. Et effectivement, le droit d'accès à un juge, qui signifie d'avoir la possibilité de saisir un tribunal librement, de pouvoir avoir le droit à avoir un accès à un juge en toutes circonstances, sans distinction d'être riche ou d'être pauvre. C'est pour ça d'ailleurs que a été créé ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle, d'accord, qui fait que l'on peut utiliser la justice même si on n'a pas de moyens financiers suffisants, d'accord. Et c'est aussi le droit de pouvoir exercer les voies de recours normalement, d'accord. Bon, alors c'est le droit à un juge, mais c'est le droit à avoir un juge impartial et indépendant. Et c'est ça qui est important, et c'est là où il y a quelques soucis en ce moment, enfin des soucis, quelques grandes réformes que j'évoquerai tout à l'heure à ce propos. Le droit à un juge impartial et indépendant. Alors l'impartialité concerne les relations d'organisation et de fonctionnement dans la justice. Ça veut dire quoi l'impartialité? Ça veut dire que un même juge ne peut pas à la fois instruire un dossier, c'est-à-dire chercher les éléments de vérité, et à la fois le juger lui-même, d'accord? Et ce qui aboutit à une distinction entre ce qu'on appelle le juge d'instruction, d'accord, qui a pour but, en gros, de procéder à une enquête, pour faire court, et une fois qu'il a suffisamment d'informations à son actif, bah, soit il décide, soit bah de dire, il n'y a pas d'information à ce moment-là, bon, bah, le dossier, il est clos, soit de renvoyer le dossier à un juge, mais un juge différent de lui-même, évidemment. D'accord. Alors, évidemment, il y a une entorse à ce principe, sinon, là aussi, ce serait pas marrant. Cette entorse, c'est le juge pour enfants, qui, lui, est à la fois juge d'instruction et juge du siège, entre guillemets. Bon. Alors là aussi, il y a une explication. L'explication est la suivante, c'est que en matière de droit des mineurs, il est plus logique et plus compréhensible que le mineur n'a affaire qu'à une seule personne qui s'occupe de toute la procédure et de tout le dossier du début à la fin. Effectivement, pour être très honnête avec vous, c'est vrai que d'avoir affaire à plusieurs juges, et en plus de ça, même au sein de l'instruction, en principe, il peut y avoir des remplacements de magistrats, etc. Donc ça peut être source aussi de complications. Et pour un mineur, évidemment, c'est encore plus difficile. Une fois que le mineur s'est livré à l'adulte, il faut qu'il change de personne, etc. C'est un peu compliqué. Donc il dit bon. C'est assez compréhensible que pour le coup, il y ait une exception à ce principe, mais en tous les cas, pour la justice des majeurs, il n'y a aucune dérogation à ce principe-là. L'indépendance, là, pour le coup, c'est effectivement que le juge ne doit pas être soumis à une quelconque autorité, et notamment à l'autorité exécutive. D'accord ? Bon. Alors, c'est vrai pour les juges du siège. Les juges du siège sont tous totalement indépendant en France. Ça l'est un tout petit peu moins pour les juges, enfin pour les magistrats justement, un petit lapsus, pour les magistrats du parquet qui, eux, qui, eux, ne sont pas indépendants, leur statut, dans leur statut, il est clairement indiqué qu'ils sont sous la hiérarchie du garde des Sceaux, du ministre de la Justice. D'accord ? Bon. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que c'est, voilà, c'est important. Bon, donc ça, ce sont les garanties relatives à l'accès à un tribunal. Maintenant, je vais voir les garanties relatives au déroulement de la procédure. Les garanties relatives au déroulement de la procédure. Alors, il y a trois grands principes, je pense que vous en avez tous entendu parler, et qui me paraissent intéressants de revenir dessus pour vous expliquer un petit peu. Le premier, c'est la publicité des débats. En France, les débats sont normalement tous publics. Ce qui signifie que si vous avez envie, un jour ou l'autre, d'assister à une audience, il n'est pas possible de vous y interdire. D'accord ? En tant que citoyen, vous avez la possibilité d'assister à des audiences correctionnelles ou à des audiences de la cour d'assises. D'accord ? Cela étant, il y a effectivement des restrictions, et ces restrictions concernent soit l'instruction, là aussi, et souvent c'est à huis clos, ou alors certaines audiences qui là aussi sont à huis clos. Ce sont évidemment les audiences qui concernent souvent les mœurs, tout ce qui concerne les mœurs, donc l'agression sexuelle, viol, etc. Là aussi, on comprend assez aisément que quelqu'un qui se fait violer n'ait pas forcément envie que toute sa vie soit déballée à tout le monde. C'est tout à fait légitime. Et évidemment, le huis clos est là aussi de droit quand ça concerne des mineurs. Là aussi, ça se comprend assez aisément. Un mineur n'a pas forcément envie que ce soit forcément tout déballé. Le deuxième principe, c'est celui de la célérité de la justice. Le deuxième grand principe, c'est celui de la célérité de la justice. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, normalement, la justice doit aller le plus rapidement possible et doit juger dans ce que l'on appelle un délai raisonnable. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce délai raisonnable ? Bon, alors évidemment, il n'y a pas de définition, sinon ce serait trop beau. Et c'est même normal qu'il n'y ait pas de définition, ni que la Cour européenne des droits de l'homme ait cherché à poser une limite. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Cour européenne des droits de l'homme, en soi, ne sait pas ce que peut correspondre une durée raisonnable. Est-ce que c'est 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 30 ans ? On n'en sait rien. Cela étant, évidemment, il y a des contrôles, et la France a été condamnée un certain nombre de fois pour dépasser de manière très 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 largement ce fameux délai raisonnable, mais pour apprécier ce caractère raisonnable ou pas, la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est assez révélateur, parce que on entend souvent d'ailleurs dans les grands médias, la justice est lente, alors oui et non, et justement, avec les critères que je vous ai énoncés, ça va... Vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre. Oui, parfois une procédure prend du temps, mais ce temps, d'abord, qui est imputable à la justice, est pris en compte par rapport à trois critères. Le premier est celui de la complexité de l'affaire. Il est vrai que quand vous avez un trafic de drogue qui a des ramifications d'un peu partout en France, voire même à l'étranger, vous comprendrez bien que ce n'est pas la même durée que de juger un vol, ou d'instruire sur un vol simple. D'accord ? Si on me vole mon téléphone dans le métro, il ne va pas y avoir une enquête pendant 3 ans. C'est assez logique. Par contre, s'il faut étudier sur un trafic de drogue qui a des ramifications à Lyon, à Paris, en Italie, en Suisse pourquoi pas au Maroc, puisque c'est un pays qui fournit de la drogue, vous comprendrez bien que là, pour le coup, pour coordonner tous les pays et pour aller enquêter dans tous les pays, ça va être beaucoup plus long. Donc ça, c'est la première chose. Après, le deuxième critère, c'est celui du comportement de la personne. Ça veut dire quoi ? Le comportement de la personne, ça veut dire que, évidemment, une personne qui multiplie les recours, qui multiplie les demandes d'actes, d'expertise, de contre-expertise, évidemment, là aussi, ça prend considérablement, ça rallonge considérablement le temps de l'instruction du dossier. Sachant que là aussi, par exemple, sur une expertise, une contre-expertise, par exemple, il y a un délai qui n'est pas imputable au juge. il y a un délai qui n'est pas imputable au juge, c'est-à-dire que quand le juge va demander, par exemple, une expertise médico-légale, en disant, il faut autopsier le corps de la victime. Très bien. Bon, donc le juge, il va donc faire une ordonnance en demandant à l'institut médico-légal d'expertiser le corps et de procéder à l'autopsie du corps. Bon, oui, mais le problème, c'est que l'institut médico-légal n'a pas que ce corps-là à autopsier, malheureusement, et qu'il en a d'autres le même jour et au même moment, et que là aussi, comme pour tout, il va traiter les priorités, les choses à faire en priorité, ceux qui attendent depuis déjà un temps certain, et ainsi de suite. Donc du coup, évidemment, il va y avoir un temps de latence entre le moment où l'ordonnance va être prise et le temps où le retour de l'expertise va avoir lieu. Et on est sur plusieurs mois, pour être très honnête. Et donc si déjà sur cette première expertise, il y a une contre-expertise en disant « moi je ne suis pas d'accord avec les conclusions de l'expert », et que rebelote, on repart sur une expertise, on va multiplier par deux le temps, mais ça c'est pas la faute du juge, pour le coup il y est pour rien, puisque lui il demande simplement une expertise, lui, et comme c'est de droit, enfin, il est possible de demander une contre-expertise, il prend acte et il fait faire, donc là pour le coup il y est pour rien. Par contre, là où il y peut quelque chose, c'est effectivement si il ne répond pas aux diligences, et là effectivement c'est un autre cas qui est pris en compte, c'est si effectivement il y a une non-prise en compte des diligences et s'il n'y a pas d'acte pendant un certain délai. Bon. Alors sachant que normalement, alors il n'y a pas de délai, une instruction n'a pas de délai, ça peut durer le temps que ça dure, simplement si au bout de 2 ans, lorsqu'une instruction est ouverte, le juge d'instruction a l'obligation de rendre une ordonnance pour dire où il en est, au bout de 2 ans. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé d'arrêter, s'il veut que ça dure encore 1 an, 2 ans, mais il est obligé au bout de 2 ans de justifier. Le troisième principe important, c'est évidemment le principe de la présomption d'innocence. Là aussi, je pense que vous en avez tous entendu parler, c'est un principe cardinal de la procédure pénale qui veut dire que tant qu'une personne n'a pas été jugée, elle est censée ne pas avoir commis l'infraction. Et qu'à tous les stades, du moment où elle est appréhendée par la police jusqu'à son jugement, elle n'est pas coupable. Et dans les textes, c'est ainsi rédigé, c'est la personne pour laquelle il existe des charges suffisantes ou pour lesquelles il y a des indices apparents et concordants prouvant que. Mais c'est jamais la personne a commis, puisque ce n'est que le jour du jugement que l'on saura précisément si la personne a effectivement commis ou pas l'infraction qui lui est reprochée. D'accord. Maintenant, pour les droits de la défense. Alors, pour les droits de la défense, ça englobe plusieurs choses, plusieurs droits. Le premier, c'est évidemment d'être informé de la nature et de la qualification juridique. Évidemment, c'est logique. C'est de pouvoir bénéficier du temps nécessaire pour pouvoir préparer sa défense et d'avoir les moyens nécessaires pour la préparer. C'est aussi la possibilité de pouvoir se défendre soit avec un conseil, c'est-à-dire avec un avocat, soi-même, ce qui signifie pouvoir le choisir librement, ce qui signifie pouvoir s'entretenir avec lui, et ce qui veut dire que l'avocat doit être présent du début jusqu'à la fin du procès pénal. D'accord ? Et donc effectivement, je pense que vous en avez entendu parler, il y a eu récemment la loi sur la garde à vue qui a mis en place la présence de l'avocat dès le début de la garde à vue, ce qui n'était pas le cas, puisque l'avocat n'intervenait pas au stade policier, alors que maintenant, c'est le cas, il y a un entretien qui est prévu d'une demi-heure avec la personne, tout de suite, dès que la personne rentre au commissariat. D'accord ? Bon. C'est aussi le droit de pouvoir convoquer et de pouvoir interroger les témoins. Et le droit de la défense, c'est pouvoir aussi bénéficier d'un interprète si on n'est pas, si on ne parle pas ou ne comprend pas le français. D'accord. Alors, ça c'était un premier temps qui était le renforcement des droits fondamentaux de la procédure pénale. Le deuxième temps, qui est celui du renforcement du modèle accusatoire, parce que, à mon sens, Même s'il y a un tout petit bémol en ce moment, bon, encore il n'y a pas trop de recul pour savoir vraiment où la politique pénale va, mais à mon sens, la politique pénale aujourd'hui va vers un renforcement très net du modèle accusatoire, et je vais vous l'expliquer. Alors d'abord, il faut d'abord dans un premier temps que je vous explique déjà le modèle français tel qu'il est, et du coup, qu'est-ce qui différencie ce fameux modèle accusatoire et inquisitoire, qui sont les deux modèles clés du procès. Le modèle accusatoire, c'est une procédure qui est orale, contradictoire et publique. C'est la clé dans une procédure accusatoire, c'est un jeu entre un accusateur et la personne poursuivie, et le juge a un rôle d'arbitre. D'accord ? Pour être très simple, c'est le modèle américain. D'accord ? C'est l'archétype de la procédure accusatoire, c'est le modèle américain. D'accord ? Alors les avantages de ce modèle, c'est que les personnes sont toutes et tout le temps informées des arguments de l'autre partie. Il y a une transparence totale des arguments des parties, donc évidemment, un maximum de droits pour les parties. L'inconvénient majeur, c'est que tout le système repose sur des intérêts privés, avec évidemment ce que ça comporte, et on le voit bien aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un système judiciaire à deux vitesses, les très riches, qui peuvent à peu près faire tout ce qu'ils veulent, en termes d'actes, en termes de demandes d'actes, et ceux qui ont moins de finances, pour lesquels les demandes d'actes seront limitées, et très nettement. Le modèle inquisitoire, lui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une procédure écrite, secrète et non contradictoire, dans lequel le juge a un rôle actif, puisque c'est à lui que revient la charge de prouver qu'il y a ou pas une infraction de commis. Donc évidemment, dans une procédure inquisitoire, l'instruction est nécessaire, puisqu'il faut arriver à la manifestation de la vérité, et comme il n'y a pas, et comme ce ne sont pas les parties privées qui apportent les preuves, il faut bien que quelqu'un les apporte, et notamment donc un magistrat particulier. L'avantage de cette procédure, c'est son efficacité inévitable, qui est que, comme c'est un juge professionnel qui s'occupe de rechercher les preuves, évidemment, lui, il peut rechercher tout, et évidemment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière à savoir est-ce que c'est pour des riches, pour des pauvres, etc. Il n'y a pas de barrière, il peut évidemment faire tous les actes qu'il veut. L'inconvénient, par contre, de cette procédure, c'est que, évidemment, certains droits peuvent être bafoués, puisque c'est non contradictoire et par définition secret. Donc, évidemment, ce qui peut engendrer certaines atteintes aux droits fondamentaux. D'accord, mais voilà. Alors, bon, évidemment, le modèle inquisitoire, je vous passe l'origine du mot. Je pense que vous avez tous bien compris que ça venait de l'inquisition religieuse. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien d'ailleurs que c'est utilisé dans les pays d'Europe, non plus. Alors, en France, le modèle aujourd'hui, il est mixte en réalité. C'est-à-dire qu'il est à la fois accusatoire et à la fois inquisitoire. Il est inquisitoire, évidemment, dans sa phase d'instruction, puisque, comme je vous le disais, c'est un juge d'instruction qui a pour mission de rechercher les preuves. Mais il est accusatoire dans la phase de jugement, dans la mesure où la règle à l'audience, c'est évidemment l'oralité des débats, et un débat contradictoire, c'est-à-dire où les personnes peuvent s'échanger les idées. Après, c'est au juge de savoir si ce qui est dit est vrai ou pas, mais en tout cas, tout peut être dit, et évidemment, il peut y avoir évidemment des ripostes d'arguments. D'accord ? Pour ce qui est du déclenchement des poursuites, c'est un petit peu les deux, dans la mesure où les poursuites peuvent être engagées soit par un accusateur public, c'est-à-dire par le ministère public, soit par la victime si le ministère public n'a pas mis en mouvement l'action publique. Alors, aujourd'hui, où va-t-on ? Eh bien, à mon avis, vers un grand renforcement du modèle accusatoire, très nettement. je le pense sincèrement et je vais vous le démontrer par plusieurs arguments. Le premier qui est tout d'abord l'assez faible recours au juge d'instruction. J'étais regardé les chiffres de la justice. Vous savez que le ministère de la Justice publie chaque année ce qui s'appelle les chiffres clés de la justice, qui est consultable en ligne d'ailleurs sur le site du ministère. Et c'est les chiffres, c'est toujours de l'année d'avant évidemment. Donc c'était les chiffres pour l'année 2011. Et pour l'année 2011, à la louche, on va essayer d'arrondir, il y a sur 1 400 000 affaires poursuivables, il y en a 17 548 qui ont été orientées vers un juge d'instruction. Sur 1 million, à la louche, on va dire 1 million, sur 1 million d'affaires poursuivables, seulement 17 000 ont été envoyées vers un juge d'instruction. C'est assez révélateur de ce que je vous dis. Il y a une colonne avec les chiffres, et puis il y a une autre colonne sur les chiffres clés où c'est un pourcentage par rapport à l'année d'avant. Et par rapport à 2010-2009, il y a une baisse de 10% de la saisine du juge d'instruction. Voilà. Alors, évidemment, ces affaires, elles vont où, évidemment, des classements sans suite, soit des orientations vers les maisons de justice du droit, soit, évidemment, pour la grande majorité d'entre elles, renvoyées devant un tribunal correctionnel, tout simplement, c'est-à-dire le droit commun, quoi. Donc, on voit bien que sur ces 17 000, par contre, ces 17 000, c'est les infractions les plus graves, évidemment, et les plus compliquées, d'accord. Bon. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument qui, pour moi, plaide en faveur d'un renforcement de l'accusatoire, c'est évidemment un rapport qui a eu lieu, qui a été remis en 2009. Et ce rapport qui a été remis en 2009 visait à modifier le code de procédure pénale. Et il y avait plusieurs dispositions dans ce rapport, plusieurs préconisations. Peut-être en avez-vous entendu parler parce que fait quand même parler de lui, ce rapport, c'était le rapport Léger de 2009. Et dans ces dispositions, il y avait quoi ? Il y avait, la suppression du juge d'instruction. Il y avait la suppression du juge d'instruction au profit du procureur de la République, qui était seul directeur d'enquête et seul à mener l'enquête. Contrôlé par un juge de l'enquête, non plus un juge d'instruction, mais un juge de l'enquête et des libertés, qui était là pour contrôler ce que le procureur de la République faisait. Mais suppression du juge d'instruction. Il y avait suppression du secret de l'instruction, évidemment, s'il n'y a plus de juge d'instruction, il n'y a plus de secret, évidemment, c'est logique. Très clairement, un renforcement du modèle accusatoire, la mise en place de ce qu'on appelle le plaidé coupable, qui existe déjà pour les délits, mais pour les crimes. Alors le plaidé coupable, pour faire court, c'est en gros de dire... Vous êtes convoqué devant le procureur de la République, et le procureur de la République vous demande si d'abord vous avez commis les faits ou pas, et si vous dites que vous avez commis les faits, à ce moment-là, il peut vous être proposé une peine. D'accord, c'est le fameux plaidé coupable, qui est issu du modèle anglo-saxon et qui a été introduit en France, d'abord pour les délits, ce qui existe effectivement, qui est en plein essor. Et ce rapport visait, comme ça fonctionne aux États-Unis, puisque c'est le cas, aux États-Unis, l'introduction de ce plaidé coupable, mais pour les crimes. Bon, pourquoi pas. Là aussi, l'idée, c'est d'aller le plus vite possible. Bon. Et avait été également proposé, de faire du président de la cour d'assises un simple arbitre, ce que je vous disais tout à l'heure, et l'obligation de motiver les arrêts de la cour d'assises. Bon. Alors, ce projet de réforme du code de procédure pénale, évidemment, il n'a pas abouti dans sa globalité. Pourquoi ? L'annonce phare qui avait été de dire « on va supprimer le juge d'instruction ». cette annonce phare qui évidemment faisait suite à l'affaire Boudreau et de ce qui s'était passé, hein, il y avait eu les enquêtes parlementaires, et dans les enquêtes parlementaires, il était dit, oui, mais alors les juges d'instruction, ils sont trop jeunes, ils sont mal formés, blablabla. Et du coup, on va les supprimer. Donc effectivement, c'était juste à la suite de ça, et de dire, on va tout confier au procureur de la République. Alors pourquoi pas? Oui, mais alors si vous vous rappelez bien de ce que je vous ai dit tout à l'heure, justement par rapport à l'indépendance. Ah oui, mais manque de peau, c'est que le procureur de la République, il n'est pas du tout indépendant. Et que, en soi, pourquoi pas de confier la direction de l'enquête à un magistrat, mais qu'il soit procureur ou pas, pourquoi pas, en soi. Ah oui, mais manque de peau, ça ne remplit pas les conditions européennes. Et la France, évidemment, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et coup de massue, alors là, je crois que personne n'en est encore vraiment remis d'ailleurs, où la Cour européenne des droits de l'homme a dit, et là, noir sur blanc, ça ne peut pas être plus explicite, le ministère public n'est pas une autorité judiciaire. Et bing, allez, ça c'est fait. Alors évidemment, coup de massue, parce que la réforme, du coup, si ce n'est pas une autorité judiciaire, évidemment, la réforme ne peut pas être appliquée. Et que, avant de mettre en place cette réforme, qui, pour être très honnête avec vous, si elle ne va pas être mise en place tout de suite, elle sera mise en place un jour ou l'autre, mais la première chose, ce sera d'abord de réformer le statut du procureur de la République, et la première réforme sera d'abord de modifier la place du procureur de la République. Comment, je ne sais pas vraiment, il y a plusieurs hypothèses, hein. Ça peut être de dire il sera formé différemment, il sera formé parce que pour faire court, les procureurs de la République sont formés dans la même école que les juges du siège, la même formation. Quand vous êtes à l'école, vous êtes formé aussi bien à être juge du siège qu'à être procureur de la République. Et c'est simplement après coup, comme en médecine, que vous choisissez ce que là vous voulez. Et notamment, si vous préférez, si vous vous sentez plus à être procureur de la République, vous postulez pour être procureur. Si vous vous sentez plus juge du siège, vous postulez à être juge du siège. Mais c'est la même formation. Et là aussi, c'est pareil, donc il y a une confusion dans les genres, et là aussi, peut-être qu'il peut y avoir une réforme visant à ça, par exemple aux États-Unis. C'est une formation qui se... Alors bon, les procureurs sont élus, alors c'est un peu compliqué, mais ça se rapproche davantage des avocats aux États-Unis qu'en France, c'est plus des fonctionnaires. Bon, enfin, c'est un peu dans l'idée, quoi. Cela étant, certaines dispositions ont été quand même adoptées, notamment par la loi donc sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice. On en a parlé la semaine dernière, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette loi, mais simplement, il y a certaines dispositions qui ont été adoptées, comme notamment donc sur les assises, sur la cour d'assises, où il y a eu l'obligation de motivation des décisions de la cour d'assises qui a été entérinée. Et alors là, qui est plus discutable, sur une modification du nombre des jurés, où on est passé de 9 à 6 et de 12 à 9 en appel. Alors on semble dire, bon, pourquoi pas, enfin, c'est qu'une question de chiffres, et effectivement, pourquoi pas, c'est qu'une question de chiffres, mais en fait, non, c'est pas qu'une question de chiffres, parce que aux assises, la décision fait suite à un vote qui est pris. D'accord ? Et le vote, la règle du vote aux assises, c'est la règle des deux tiers des votes. D'accord ? Bon. Et avant, qui est cette réforme, le peuple, les citoyens avaient avaient vraiment la main sur la décision finale, puisque ils étaient du coup 9 plus 3, 12, et du coup 2 tiers, ça fait 8 dans ce goût-là. Donc du coup, même si on compte bien, les juges professionnels intervenaient, mais n'intervenaient que subsidiairement, tandis que là, du coup, ils sont 9. Si on prend les deux tiers de 9, ça fait 6, et que dans les 6, il y a déjà 3 voix professionnelles. C'est-à-dire 3 personnes qui jugent de la même manière, évidemment. Et qu'après, du coup, c'est pas très compliqué d'avoir 3 autres personnes qui vont juger de la même manière, du coup. Et donc, on voit bien que les règles de la majorité qualifiée est un peu modifiée, et que la main qui était donnée au peuple dans les décisions est un petit peu remise en question, d'accord ? Bon, même si effectivement l'idée à la base, évidemment que ça coûte moins cher, évidemment, mais le vrai, la vraie répercussion, c'est ça aussi, hein, c'est une vraie modification de la, dans le fonctionnement du vote de la décision. Enfin, pour terminer cette conférence, je crois que on n'échappera pas vraiment à ce renforcement du modèle accusatoire, dans la mesure où on vit dans une société démocratique où la démocratie a a de plus en plus d'importance, et que dans une société démocratique, une des conditions, c'est la transparence de ce qui se passe dans le fonctionnement de la société, et notamment donc la transparence aussi dans la justice, et que manifestement, on n'échappera pas beaucoup à ce renforcement de l'accusatoire. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que quand nous, on va vers un renforcement de l'accusatoire, les pays accusatoires, donc notamment évidemment les États-Unis, eux vont vers un renforcement, alors évidemment on ne peut pas non plus comparer parce que ce n'est pas du tout le même système, mais vont vers un renforcement de l'inquisitoire, là aussi, puisque aux États-Unis il y a eu des abus, et que pour corriger ces abus, il a fallu un petit peu mettre en place un système de juges qui va contrôler tout ça. Voilà, je vous remercie de votre attention, et donc du coup je me tiens prêt à vos questions.